l'Iran élargit ses liens avec les pays d'Asie centrale, les forces armées yéménites ont repoussé les attaques des mercenaires de la coalition saoudienne contre la ville de Harad. Et au Burkina Faso, demeurent une douzaine de blessés lors du coup d'État. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dimanche que Téhéran se félicitait de l'expansion constante de ses relations avec tous les pays d'Asie centrale, en particulier l'Ouzbékistan. M. Raisi a tenu ses propos au cours d'une rencontre avec le vice-premier ministre ouzbek, Sardar Umurzakov. Les deux parties sont prêtes à développer et à approfondir leurs relations, a-t-il déclaré. Nous sommes déterminés à avancer à grands pas vers la prospérité et le développement de l'Iran et de l'Ouzbékistan en utilisant toutes les capacités dont nous disposons, a affirmé le président iranien. De son côté, Sardar Umurzakov, qui est également ministre ouzbek des investissements et du commerce extérieur, a déclaré que sa visite à Téhéran visait à examiner les moyens de développer les liens entre les deux pays dans tous les domaines. Il a également exprimé la détermination de Tachkent à approfondir ses relations avec Téhéran dans les secteurs du commerce, de l'économie, des investissements, des transports, du transit et de la culture. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de brigade Mohammad Bareri, en marge de la cérémonie de l'inauguration du centre du commandement et de contrôle du sud-est de l'armée de terre iranienne, tenue dimanche 20 février, a fait état des capacités et des progrès réalisés dans le secteur de la technologie et de l'information de l'armée et a qualifié d'un impact considérable les innovations nationales de l'armée terrestre dans le domaine de la communication, de la guerre électronique, de la capacité approfondie des systèmes d'interception et de reconnaissance. Le général de brigade Mohammad Bareri a décrit la création d'un centre de commandement et de contrôle dans la base sud-est du pays comme une autre réalisation de l'armée iranienne. Tous les développements aux frontières sud-est, nord-est, ouest et nord du pays sont transmis au centre de commandement et de contrôle intégré sous forme audiovisuelle et d'autres types de données et ces centres peuvent synchroniquement visualiser les rapports et prendre des mesures appropriées et de manière coordonnée. Concernant les méthodes adoptées par l'armée de terre iranienne, pour l'entretien des armes et des munitions, le général Bareri a annoncé. Outre les armes et les équipements qui sont toujours prêts à l'usage pour la formation des soldats ou être utilisés dans des opérations, le reste stocké dans les dépôts de munitions de l'armée peut être opérationnel dans une heure maximum, ce qui est conforme aux normes avancées pour un entretien optimal de l'équipement et les utiliser en cas de besoin. Parmi un grand nombre de progrès réalisés de A à Z en Iran, de l'aviation de l'armée de terre iranienne, le général Bareri a évoqué la capacité héliportée de l'armée de terre iranienne, disposant alors qu'il est des hélicoptères de combat équipés par des systèmes de vision nocturne avancés et des munitions ayant des portées à la mesure des hélicoptères des pays développés. Le général Bareri a qualifié de réalisation importante et significative l'utilisation d'une technologie de pointe de ce nouveau centre du commandement et de contrôle, y compris la précision, l'intelligence et la portée appropriée d'armes utilisées, et a déclaré que la synergie et la présence des forces expérimentées dans les frontières sud-est de l'Iran monteraient la puissance permanente de l'armée iranienne. Les forces armées yéménites, avec la participation de leurs unités de missiles, de drones et d'artillerie, ont repoussé les attaques des mercenaires de la coalition saoudienne contre la ville de Harad, dans le nord-est du Yémen, leur infligeant de lourdes pertes. Lors de leur avancée sur l'axe de Harad et au cours d'une opération de contre-attaque, les combattants de l'armée d'Ansarallah du Yémen ont pu prendre le contrôle des positions des mercenaires de la coalition saoudienne, a annoncé l'armée yéménite. Selon le rapport, les mercenaires de la coalition saoudienne avec la participation des forces armées de l'armée saoudienne et des mercenaires soudanais avaient l'intention de mener des attaques contre les combattants yéménites et prendre contrôle de la ville de Harad à partir de deux axes principaux du sud-est et sud de la ville. Malgré les bombardements aériens et d'artillerie du camp adverse, les combattants yéménites ont pu les faire reculer. Les mercenaires soudanais ont subi de lourdes pertes. Au cours de l'opération, un grand nombre d'équipements militaires des agresseurs ont été détruits, dont plus de 40 véhicules et véhicules blindés, des véhicules de communication, des dragueurs de mines et des lance-roquettes, 60 lance-roquettes Katyusha, 7 canons, un drone de reconnaissance de combat CH-4 de fabrication chinoise et un drone d'espionnage. La contre-attaque des combattants yéménites a fait au moins 380 blessés et 200 morts parmi les mercenaires. Le Kremlin appelle les Occidentaux à arrêter d'annoncer chaque jour une date pour une invasion par la Russie. Les déclarations alarmistes des puissances occidentales sur l'imminence d'une invasion russe en Ukraine sont une provocation et pourraient avoir des conséquences néfastes, a déclaré ce dimanche 20 février le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi avoir la conviction que la Russie pourrait lancer une opération armée à tout moment. Le président russe Vladimir Poutine ne prête pas attention à ses propos, a dit Dmitri Peskov. Le fait est que cela conduit à une aggravation de la tension. Et quand la tension atteint son comble, comme c'est le cas par exemple sur la ligne de contact, n'importe quelle étincelle, n'importe quel incident imprévu, n'importe quelle provocation planifiée peut mener à des conséquences irréparables, a-t-il averti. Donc, tout cela peut avoir des conséquences néfastes. L'exercice quotidien qui consiste à annoncer une date pour une invasion de l'Ukraine par la Russie est une très mauvaise pratique, a-t-il souligné. Dmitri Peskov a déclaré que l'Ukraine avait perdu son intégrité territoriale suite à un coup d'État militaire. L'OTAN, les États-Unis et le Royaume-Uni continuent d'acheminer des avions cargo chargés d'armes et de matériel militaire en Ukraine, a-t-il indiqué. Le responsable russe a souligné que la Russie n'avait jamais initié une agression et qu'elle ne voulait même pas prononcer le mot « guerre ». La Russie a survécu tous les conflits, a-t-il martelé. Bien que Moscou rejette toute intention d'attaquer l'Ukraine, l'Occident tente de faire croire qu'une guerre imminente serait sur le point d'éclater dans cette zone. Deux personnes ont trouvé la mort et une douzaine de personnes ont été blessées lors des événements du coup d'État du 24 janvier dernier au Burkina Faso, a annoncé la présidence dans un communiqué. Selon le communiqué, suite aux événements des 23 et 24 janvier 2022 qui ont abouti à l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a instruit les services compétents d'ouvrir une enquête afin de faire le point des dégâts collatéraux occasionnés. Le bilan rapporté à ce jour, 20 février 2022, fait état de deux décès et une douzaine de blessés civils par l'effet de projectiles perdus, indique le communiqué. La même source précise que le lieutenant-colonel Damiba a aussitôt instruit que des actions soient entreprises auprès des familles des victimes afin de les soutenir moralement, de prendre en charge des blessés et de recueillir leurs différentes préoccupations. La Commission européenne a alloué 40 millions d'euros d'aide humanitaire au Soudan dans le cadre de son financement des opérations humanitaires en Afrique orientale et australe en 2022, a rapporté dimanche l'agence presse officielle soudanaise SUNA. L'Union européenne a confirmé sa détermination à soutenir le peuple soudanais dans le besoin par le biais des instances internationales, a déclaré SUNA. Les graves problèmes auxquels sont confrontées les populations vulnérables en Afrique orientale et australe ont été exacerbés par les phénomènes météorologiques violents, l'instabilité politique, les conflits et les effets de la pandémie de COVID-19, a indiqué le commissaire européen à la gestion des crises cité par SUNA. L'Union européenne débloquerait au total 294,2 millions d'euros qui seraient alloués à divers projets dans plusieurs pays et régions d'Afrique, dont Djibouti, la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, l'Afrique australe et la région de l'océan Indien, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Ouganda, a précisé SUNA. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Vienne, vers un échec des pourparlers. Est-ce une victoire à la Pyrrhus que cherchent les Américains, à qui l'Iran continue à fermer toute porte au dialogue avant qu'ils ne suppriment les sanctions anti-iraniennes? Toujours est-il que le ton est monté ce dimanche à Téhéran, où pour la première fois depuis le début des pourparlers de Vienne, le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué la perspective d'un échec, soulignant qu'en cas de revers, ce sont les Américains qui en sont coupables. Au fait, personne ne peut confirmer le contraire, y compris les alliés les plus proches de Washington, dont la position se distingue par une confusion totale autour de leur politique iranienne, puis un triple non, non à la levée des sanctions, non à la garantir un retour sans départ US à l'accord nucléaire, non à la possibilité de vérifier si oui ou non leurs sanctions ont été véritablement levées, ou s'agit-il de mesures uniquement cosmétiques ? Le ministre iranien des Affaires étrangères met en garde contre le double jeu occidental sur le texte et le calendrier à Vienne, le président Raisi soulignant que tout accord à Vienne devrait inclure la levée des sanctions, une garantie valable et la clôture des questions et revendications politiques. Bien que les délégations de négociation des trois pays européens aient quitté Vienne pour accompagner leur délégation politique à Munich et tenir des consultations avec leur capitale, les négociations se poursuivent à différents niveaux à Vienne. La Russie, la Chine et l'Union européenne continuant de négocier à différents niveaux bilatéraux et multilatéraux, une réunion des délégations de négociation irano-russe s'est tenue samedi 19 février à Vienne, après celle entre Ali Bareilly, négociateur principal de l'Iran, et Enrique Mora, secrétaire général adjoint et directeur politique du Service européen d'action extérieure. Les délégations de négociation Iran-Chine se sont également rencontrées séparément samedi. Faisant état de ses réunions avec le chef de l'équipe de négociation iranienne, Erika Mora, dans un message sur Twitter, le négociateur en chef de la Russie, Mikhail Ulyanov, a souligné que les pourparlers sont concentrés sur des questions importantes qui doivent être résolues avant qu'un accord puisse être atteint sur la relance du plan d'action global conjoint. Le refus des Américains de jouer le jeu est d'autant plus ridicule qu'ils ont même été forcés à mettre à la porte l'architecte des sanctions anti-US, non seulement aux négociations de Vienne, mais au département d'État tout court, et la raison est plus claire. L'échec de la politique des pressions maximales et partant des sanctions alors même que la crise de l'énergie frappe de plein fouet des deux côtés de l'Atlantique ne laisserait aucun autre choix. Une chose est sûre. L'Iran s'est déjà dissocié de ce contexte où les sanctions pesaient sur ses finances. Pour le second trimestre d'affilée, il a même élargi ses ventes de pétrole pour toucher la barre de 2,5 millions de barils par jour. Lundi, le président iranien est attendu au Qatar pour participer au sommet de l'OPEP de gaz et ce n'est pas dans une pareille conjoncture qu'un échec des pourparlers a inquiété Téhéran. Hormis des propositions et des plans que les responsables iraniens ont à l'ordre du jour pour assister au sixième sommet du FPEG, des plans pour élargir la coopération entre l'Iran et le Qatar dans le secteur du gaz, la formation d'un comité mixte des deux pays pour la production du champ gazier commun de part sud, l'exportation de services techniques et d'ingénierie, la création d'entreprises basées sur la connaissance dans les domaines du pétrole et de l'énergie, et le swap du gaz qatari via l'Iran seront également abordé lors des réunions séparées entre les responsables des deux pays, auxquelles assistera le ministre iranien du pétrole.